Les chroniques nature d'Environnat sur Radio Point.
Bonjour, je suis Jérôme de l'association Environnat. Avec ces nouvelles émissions sur Radio Point, on va vous emmener rencontrer et mieux connaître la nature autour de vous.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Point pour une nouvelle chronique environnement. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Alors Jérôme, de quoi vas-tu nous parler pour cette quatrième chronique environnement sur Radio Point ?
Alors, pendant l'été, on avait fait une chronique avec l'animatrice Natura 2000 sur les espèces remarquables de la vallée de la Seugne. Et là, bah, du coup, je vais vous proposer de parler aussi d'autres espèces qui ne sont pas forcément les bienvenues, mais qui sont chez nous. Et on va voir un peu comment on peut cohabiter avec ces espèces qu'on classe souvent comme espèces invasives et qu'on peut trouver là tout le long de la rivière.
Qui dit espèces invasives dit danger pour le reste de la faune et de la flore ?
Oui, voilà, ce sont des espèces qu'on appelle invasives, puisque du coup, elles rentrent en concurrence avec des espèces locales. Donc par exemple, pendant l'été, là, on avait parlé un peu du wison d'Europe, qui est une espèce vraiment très rare dans la région. Et du coup, bah, y a un peu son concurrent qui porte le même nom, hein, c'est le wison d'Amérique, qui a été importé en Europe pour les élevages et qui s'est sauvé des élevages. Bien sûr, voilà, y a toujours un moment où une cage va s'entrouvrir, où des animaux sont sauvés. Et donc du coup, malheureusement, ces wisons, en se retrouvant dans la nature, ils se sont reproduits, multipliés. Et comme ils sont un peu plus gros et un peu plus agressifs que le wison d'Europe, bah, il a tendance à prendre sa place. Donc du coup, en Europe, bah, le wison d'Europe, il a quasiment disparu. Et on retrouve le wison d'Amérique. Donc c'est pas mal d'espèces comme ça qu'on va retrouver. Alors ça, c'est, on va dire, une anecdote, puisque du coup, dans la région, heureusement, du wison d'Amérique, on n'en a quasiment pas. Par contre, le long de la Seugne, hein, les pêcheurs le savent bien, ou même les promeneurs, on va trouver les écrevisses, qui sont pas du tout les écrevisses qu'on trouve en Europe normalement, hein, c'est les écrevisses qu'on appelle américaines, en fait il y a 4 ou 5 espèces différentes. Et là ces écrevisses, le problème c'est qu'elles se multiplient très très vite et elles mangent absolument tout. Donc quand on retrouve ces espèces au bord de la rivière ou dans la rivière, bah, en fait elles vont manger les œufs de poisson, les œufs de grenouille, manger même les végétaux, donc il n'y a même plus de nourriture pour les poissons et tout ça. Donc c'est des espèces qui posent pas mal de problèmes pour l'environnement à cause de ce caractère invasif. Si elles s'installaient et qu'elles trouvaient, on va dire, une petite place dans l'environnement, ça poserait pas plus de problèmes que ça. Mais là, c'est vraiment des espèces qui vont s'imposer et prendre la place de tout le reste. Et une fois qu'elles se sont développées, il n'y a plus grand-chose d'autre. Donc c'est ça qui est vraiment dommage pour l'environnement avec ces espèces.
Par contre, les écrevisses traditionnelles, une époque, elles étaient en voie de disparition. On en est où maintenant ?
Oui, alors sur la Seugne, il y en a quasiment pas. En plus, les écrevisses européennes, elles aiment bien les eaux bien oxygénées, donc plutôt les petits ruisseaux, des choses comme ça. Donc elles étaient plutôt dans les zones de source. Et là, avec le déploiement de l'écrevisse américaine, hein, les écrevisses européennes, il y en a quasiment plus sur le bassin de la Seugne, enfin dans la région. Donc ça, c'est des espèces qui ont disparu. Après, on a la même chose un petit peu pour les poissons. Hein, dans la Seugne, on va trouver aussi pas mal ce que les gens appellent localement les calicobas, les perches soleil. Donc là, ce sont des sortes de petites perches, mais pareil, qui viennent d'Amérique du Sud et qui se sont multipliées dans la région, qui sont très très belles. C'est assez joli, elles ont du jaune, du bleu, un œil noir. Enfin, du coup, voilà. Mais pareil, un peu que les écrevisses, en fait, les perches soleil, elles mangent des œufs. Et en fait, dans la nature, bah, quand elles sont trop nombreuses, elles mangent les œufs de tous les autres poissons qui arrivent quasiment plus à se reproduire. Donc ça fait partie aussi des espèces invasives. Et puis la dernière espèce que les gens peuvent voir très très facilement aujourd'hui en bord de Seugne, c'est le ragondin. On a l'impression qu'il est chez lui, qu'il y en a toujours eu. Mais en fait, c'est pareil, c'est une espèce qui vient d'Amérique du Sud aussi et qui a été importée pour la viande et pour la fourrure. Et qui s'est sauvé aussi d'élevage et qui maintenant est partout sur le bord des rivières.
Et le ragondin, alors qu'est-ce qu'il fait comme dégâts ?
Alors lui, le problème, c'est plus une déstabilisation des berges dans certains endroits. Quand il y a des digues, des choses comme ça, il fait des terriers assez profonds, des galeries, donc il peut déstabiliser des berges et des terriers. Et puis après, il pose pas mal aussi de problèmes pour le milieu agricole, puisque du coup, quand il y a des cultures pas loin de la rivière, il sort de l'eau et puis il va manger les maïs, les céréales, tout ça. Et comme c'est gros et que des moments, ils peuvent avoir des familles assez nombreuses, ils peuvent manger des bonnes quantités. Donc c'est aussi une espèce qui n'est pas facile à gérer. Alors la gestion de ces espèces, c'est parfois assez compliqué. Sur le ragondin, par exemple, il y a eu des tests pour éliminer les ragondins. Mais voilà, comme ils sont répandus partout, ils ont toujours une cachette où on ne va pas pouvoir les déloger, donc ils reviennent toujours. Et en fait, quand on les chasse beaucoup, quand on essaie de les éliminer, les femelles déclenchent un stress qui va faire qu'en fait, elles pensent qu'une chose, c'est à se reproduire pour perpétuer la race, en fait. Et elles vont accélérer leur période de reproduction, elles vont faire plus de petits qu'à l'habitude. Et en fait, bah, du coup, on s'aperçoit que des fois, au lieu d'éradiquer l'espèce, il y en a encore plus qu'avant. Donc c'est vraiment pas évident. Il y a des tests justement dans certaines zones du marais poitevin où ils ont essayé d'arrêter complètement la chasse et le piégeage. Et ils sont aperçus, alors ça marche pas partout, hein, donc du coup c'est au cas par cas. Mais il y a des zones où en fait il y a une grosse femelle qui devient dominante avec un mâle dominant. Elle se reproduit beaucoup moins et finalement il n'y a pas plus de ragondins qu'ailleurs. Voilà, c'est des choses à tester au cas par cas. Il y a des endroits ça marche comme ça, il y a des endroits ils se développent énormément. Donc c'est des espèces que maintenant il faut trouver des cohabitations avec, puisque de toute façon on pourra plus les éliminer, hein, ils sont partout en France. Par contre, après, il faut trouver des moyens de gérer, d'être en équilibre avec cette population pour qu'ils n'envahissent pas partout et que ce soit, on va dire, des effectifs normaux, enfin, en équilibre avec leur écosystème. Donc après, c'est très gros, donc il n'y a pas de prédateurs, hein, à part dans les zones de montagne où avec le retour du loup, il peut y avoir le prédateur du ragondin, mais le ragondin adulte, il fait plus de 10 kilos, donc c'est pas le renard ou d'autres animaux qui vont les chasser. Donc il faut trouver des moyens de s'équilibrer avec ces populations.
Mais alors, il n'y a pas seulement des animaux, dans les espèces invasives, on trouve aussi les plantes.
Alors oui, il y a aussi des plantes, hein, des plantes qui sont arrivées souvent dans les jardins. C'est souvent des plantes assez belles d'apparence, hein, comme la jussie. C'est une plante qui fait des très très belles fleurs jaunes, qui poussent en bord de l'eau ou sur l'eau, avec des très belles feuilles, qui est vraiment très belle. Mais le problème, c'est qu'elle se multiplie énormément. Et quand elle s'installe dans un plan d'eau, elle va recouvrir l'ensemble du plan d'eau. Et ce qui fait que, pareil, toutes les espèces locales et toute la diversité de la rivière disparaît étouffée dans la jussie. Donc là, par exemple, sur la Jussie, sur la Seugne, il y en a vraiment pas mal. Donc il y a les agents du syndicat de bassin de rivière qui passent assez régulièrement en barque, en bateau, qui vont localiser déjà les zones où il y a beaucoup de Jussie. Et une fois qu'ils ont localisé ces zones, il faut aller les arracher. Et il faut être très minutieux. Donc là, c'est un peu la même chose. Voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que si on les arrache sans faire attention et qu'on casse des petits bouts, ces petits bouts vont partir dans la rivière et ça fait des boutures qui vont aller pousser un peu plus loin. Donc quand on ramasse les Jussie, il faut vraiment être très très minutieux, tout ramasser. Laisser la plante sécher au soleil pour que les boutures sèchent, pour pas qu'elle se replante, et ensuite l'évacuer, et l'évacuer dans des bonnes conditions, c'est-à-dire on va pas la jeter n'importe où, parce que pareil, elle peut reprendre racine et coloniser un endroit où elle était pas présente. Donc c'est des plantes difficiles à gérer, mais voilà, il y a tout ce travail qui est fait par le syndicat de bassin de rivière pour gérer ces plantes, et ça marche assez bien. Ils arrivent à équilibrer la zone. Ils l'ont fait très très bien pendant longtemps sur la haute vallée de la Seugne. Après, là, quelques zones envahies en aval de pont, mais ils travaillent sur ces zones pour justement limiter les populations de ces plantes. Donc là, c'est pareil. Si vous voyez ces plantes, si vous avez une mare chez vous ou un plan d'eau et que vous voyez ces belles fleurs jaunes, n'ayez pas la tentation d'en prendre un brin et puis de la mettre chez vous, parce que là, vous allez répandre cette espèce qui va envahir complètement votre bassin et vous n'allez plus pouvoir vous en sortir. Elle risque en plus de se déplacer plus loin. Donc du coup, surtout, ne pas toucher à ces plantes. Et quand on en voit beaucoup, on peut le signaler à la mairie, mais généralement, c'est des zones qui sont repérées à l'avance.
Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces espèces invasives d'une manière générale ?
La seule solution maintenant, c'est d'essayer d'être en équilibre, de trouver des moyens de gérer ces espèces. La lutte pour les éradiquer, c'est perdu, hein, c'est des espèces qui sont répandues partout en France. L'idée maintenant, voilà, c'est de trouver un équilibre, arriver à les gérer, arriver à avoir des espèces qu'on peut privilégier qui vont les consommer. Ça peut être, il peut y avoir des animaux qui vont s'en nourrir, des choses comme ça. Donc c'est plus de la gestion, et donc du coup c'est assez compliqué, hein. Et on n'a pas de solution toute faite, et c'est souvent au cas par cas. Il y a des choses qui marchent bien à un endroit, donc on va essayer de refaire à un autre endroit, et des fois ça va bien marcher aussi, puis des moments on va être déçu, ça va pas avoir d'effet. Donc c'est long, hein, mais on trouve généralement des solutions. Et puis en plus de tout ça, on a aussi l'effet du changement climatique, hein, qui vient, en plus de tout ça, rajouter des changements, des contraintes. Puisqu'avec le changement climatique, des espèces, par exemple, qui étaient tuées par le froid l'hiver, des espèces invasives, hein, qui craignaient le froid, maintenant qu'il n'y a quasiment plus d'hiver, elles arrivent à survivre l'hiver. Et au printemps suivant, elles sont déjà là, donc elles s'installent très facilement. Donc il y a toutes ces choses-là aussi à prendre en compte, hein. Le changement climatique, la baisse de la ressource en eau, la qualité de l'eau, hein, on peut parler des pesticides, des choses comme ça. Donc c'est des choses sur lesquelles les agriculteurs, les collectivités font des efforts, mais il y a aussi dans la qualité de l'eau la température. Et ça, avec le changement climatique, on ne peut pas y faire grand-chose, mais il faut essayer de développer quand même les zones d'ombrage. Au bord des rivières, on essaie de privilégier les zones avec des arbres pour faire le plus d'ombre possible sur l'eau pendant l'été. Puisque quand l'eau chauffe, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux d'oxygène dans l'eau, il est inversement proportionnel à la température de l'eau. Donc plus l'eau est chaude, moins on va avoir d'oxygène dans l'eau. Et ça, il y a plein d'espèces de poissons qui ne supportent pas ça. Donc après, si l'eau devient trop chaude, on va avoir des mortalités de poissons, des mortalités de certaines espèces d'insectes aquatiques. Donc il faut essayer de s'y préparer, hein, puisque ben, on sait très bien que ça se réchauffe et que là-dessus, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc il faut adapter la rivière pour qu'elle subisse le moins possible ces impacts de température.
Oui, mais alors à ce moment-là, on peut se demander s'il ne faudrait pas se faire à l'idée de l'apparition de nouvelles espèces.
Oui, oui. Avec ce changement, on a des espèces invasives qui viennent de très loin, qui ont été importées par le commerce international, des choses comme ça. Mais il y a aussi des espèces qu'on voit arriver d'Europe du Sud. Donc là, par exemple, moi, je fais pas mal de suivi sur les libellules là pendant l'été. Et on a une libellule qui avant était dans l'Afrique du Nord, qui est arrivée il y a quelques dizaines d'années, il y a une quinzaine d'années en Espagne, et qui maintenant est en Charente-Maritime depuis 2 ou 3 ans. On appelle ça le Trithemis annelée. C'est une très belle libellule violette qui a des couleurs vraiment remarquables. Donc c'est une espèce qui est arrivée avec le changement climatique. Il faut s'attendre à l'arrivée de plein d'espèces comme ça. Et le mieux pour les écosystèmes, pour pas être envahi, on va dire, par une nouvelle espèce qui arrive, c'est que l'écosystème soit en bonne santé. Généralement, quand un écosystème est bien équilibré, qu'il y a les brouteurs, les mangeurs de végétaux, les prédateurs et tout ça, en fait, quand une nouvelle espèce arrive, elle va s'installer, mais comme toutes les cases, on va dire, de la chaîne alimentaire sont prises, elle va s'installer tranquillement. Par contre, si l'écosystème est déjà dégradé, s'il manque des prédateurs, si c'est déséquilibré, là, du coup, quand elle arrive, elle va trouver une grande place et c'est là qu'elle peut être invasive. Le but aujourd'hui, hein, pour bien s'adapter à tout ça, c'est d'avoir des écosystèmes en bonne santé pour pouvoir supporter ces arrivées, ces changements qu'on connaît déjà. Là, il y a quelques années, on parlait de futur arrivée, le changement climatique, c'était le futur. Là, aujourd'hui, on le voit, on est dedans, donc c'est vraiment maintenant qu'il faut s'adapter à tout ça.
Et alors là, je pense à nos auditeurs, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre modeste niveau ?
Alors, bien sûr, sur le changement climatique, on ne va pas pouvoir agir vraiment très fort, hein, à part, bon, voilà, il y a toujours moins consommé d'électricité, d'énergie, tout ça, mais c'est notre échelle, c'est petit. Mais par contre, de maintenir les écosystèmes en bonne santé, là, du coup, on a toute notre place, puisque dans son jardin, on peut, même si on n'a pas une grande pelouse et tout ça, on peut toujours laisser un coin avec un peu plus de végétaux, ne tendre qu'une partie du jardin, et l'autre partie du jardin, ça va accueillir énormément d'espèces, hein. Faut pas croire que c'est négligeable, hein, d'avoir un buisson d'ortie, de ronces au fond du jardin, ça va accueillir énormément de papillons, d'insectes, de choses comme ça qui vont maintenir la chaîne alimentaire en place, donc ça, c'est pas anodin. Et puis après, c'est aussi travailler les collectivités locales, hein, à pont tous les marais de la Seugne. Maintenant, les bords de rivière ne sont pas tondus jusqu'au bord de l'eau. Alors ça, on peut se dire des fois que c'est plus entretenu, que la ville fait plus son travail, mais non, au contraire. C'est justement en maintenant cette végétation au bord de l'eau que ça va maintenir les insectes, de l'habitat, de la nourriture pour les poissons, et ainsi de suite. Donc c'est tout un travail, et ça il faut aussi l'expliquer, parce que quand on passe de zones entièrement tendues à des zones où on va laisser de l'herbe pousser, ça peut paraître une négligence, mais non, c'est le contraire, hein, c'est une adaptation, et c'est justement pour se préparer et pour maintenir la biodiversité. Et c'est bien pour la biodiversité, mais généralement c'est bien pour nous aussi, hein, puisque en maintenant ces insectes prédateurs, les chauves-souris, tous ces trucs-là, et ben, par exemple, on va avoir des prédateurs pour les moustiques, et ça, s'il peut y avoir des prédateurs naturels pour les moustiques, on va pas s'en plaindre. Donc on en profite aussi généralement de ces adaptations et de ces équilibres écologiques.
Il semblerait que le moustique soit pas totalement inutile, il nourrit les oiseaux.
Oui, alors le but c'est pas d'éradiquer le moustique, hein, justement, c'est pas de répandre des pesticides, des choses comme ça qui vont déséquilibrer là aussi les écosystèmes. Là, le but, c'est alors les oiseaux, les chauves-souris, même si elles sont nombreuses, elles vont s'équilibrer de toute façon, elles vont pas faire disparaître les moustiques. Par contre, elles vont maintenir des populations de moustiques assez basses. Il y aura toujours un ou deux moustiques qui viendront nous piquer, mais on n'aura pas des nuées de moustiques qui viennent sur nous dès qu'on se promène un peu trop près de l'eau. C'est ça l'équilibre de la chaîne alimentaire, ça s'équilibre. Les prédateurs ne font jamais disparaître leurs proies totalement. Par contre, ils les réduisent et puis ça s'équilibre. Hein. Quand il n'y a plus trop de proies, les prédateurs ils font moins de petits, ils se reproduisent moins. Donc du coup, bah, ça s'équilibre comme ça. Mais c'est les équilibres de la chaîne alimentaire et ça ne disparaît jamais.
Il fait beau, enfin, serait-on tenté de dire. Oui. Est-ce que tu peux nous proposer des lieux à découvrir, des endroits préservés ?
Oui, alors justement, le long de la Seugne, c'est vrai que moi je fais souvent des visites avec des groupes et on peut découvrir la Seugne vraiment à plein d'endroits, il y a plein d'espaces naturels. La Seugne, je dis toujours, c'est on a de la chance qu'il y ait des grandes crues l'hiver, alors ça peut nous embêter l'hiver, mais par contre, comme ça a toujours été inondé l'hiver, bah, ça a préservé toute cette vallée, il n'y a jamais eu trop de construction le long de la rivière, et donc on a plein d'espaces naturels à découvrir, donc à Pont, bah, il y a tous les marais de Pont à découvrir, avec les cheminements, il y a les anciens moulins, il y a tous les petits chemins de randonnée qui sont à 2 pattes de la ville, donc ça c'est vraiment chouette. On a un petit peu la même chose à Jonzac, où on peut traverser la ville, on est en pleine ville et on se retrouve dans la nature avec les chemins le long de la Seugne, avec des espaces vers le moulin, c'est vers les Antilles de Jonzac, le moulin de Chébray. Donc du coup, il y a un moulin qui a été réhabilité, et puis plein d'espaces qu'on peut découvrir comme ça le long de la Seugne. Il y a une zone aussi juste à côté du pont sur l'avenue Gambetta où il y a un petit étang. En plus, c'est des parcours assez ombragés, donc même quand il fait chaud, c'est sympa. Il y a pas mal d'oiseaux. On a le martin pêcheur qui passe très régulièrement. Il y a les hérons, des canards. C'est des zones vraiment sympas à découvrir qui sont au cœur de la ville. Et puis, si on veut découvrir une zone encore plus naturelle, moi, je vous conseille d'aller... Alors, c'est pas la Seugne, c'est une des sources de la Seugne. C'est le ruisseau de Fagnoux. C'est un affluent du Maine qui se jette dans la Seugne vers Clion. Aux étangs des Bénissons, vous avez tout un parcours aménagé qui permet de découvrir le ruisseau et deux étangs qui ont été aménagés sur ce ruisseau. Il y a déjà... c'était dans les années 70, donc il y a déjà quelques années. Et en plus des étangs, du ruisseau, il y a une tourbière aussi qui s'est formée. Et les tourbières, c'est des espaces naturels vraiment très très rares. Et donc là, on va trouver, il y a des petites plantes carnivores, il y a des libellules vraiment qui vivent que dans ces zones-là. Et ça, c'est vraiment un espace vraiment très très sympa à découvrir, les étangs des Bénissons. Et c'est un site qui a été aménagé, qui est suivi par la communauté de communes, la ville de Soubran et le département. Il y a des pontons. Alors les tourbières, généralement, on ne peut pas les découvrir parce que du coup, c'est des endroits mous où on peut s'enfoncer. Là, il y a un ponton qui surplombe la tourbière. On peut traverser la tourbière sans problème. Donc c'est vraiment un coin très très sympa à visiter.
Et je crois qu'il y a un moyen ludique d'intéresser les enfants.
Oui, et en plus, sur ces trois sites, que ce soit dans les marais de Pont, dans le long de la Seugne à Jonzac et aux étangs des Bénissons à Soubran, les trois sites ont été choisis par la région pour y installer des parcours Terra Ventura. Donc ça, c'est une application gratuite qu'on peut avoir sur son téléphone. Et en fait, ça va nous faire une petite chasse au trésor. Moi, je le vois souvent, des familles avec les enfants faire ces petits parcours. Et tout au long de la visite, du parcours, de la balade, ils ont des petites questions régulièrement à trouver. Et en plus, c'est des questions, bien sûr, liées au site, donc à l'environnement, au moulin, enfin voilà, à ce qu'ils voient autour d'eux. Ça leur permet d'être un peu plus attentifs lors de la balade et puis d'avoir cet attrait sous forme un peu de chasse au trésor. Et à la fin, justement, il y a un petit trésor à trouver. Quand on a trouvé toutes les énigmes, quand on a fini le parcours, il y a vraiment un petit coffre au trésor avec un petit badge de récompense pour symboliser la réussite du parcours. Et donc ça, on peut le faire à la fois à Pont, à Jonzac et aux étangs des Bénissons. Et c'est ouvert toute l'année, puisque ça, il suffit de télécharger l'application sur son téléphone et on peut en visiter ces sites toute l'année.
Je crois également que tu proposes des visites.
Oui, et donc du coup, avec l'association Environnat, on propose des visites. Alors, à Jonzac, le long de la Seugne, c'est en partenariat avec l'Office du Tourisme. Donc, c'est eux qui gèrent la billetterie et la réservation. C'est les lundis. Alors, pendant l'été, on faisait ça tous les lundis. Là, du coup, à la rentrée, on va voir si c'est un lundi sur deux, un lundi par mois. On va voir, mais on va essayer de continuer ces visites sûrement plutôt les lundis. Et puis, aux étangs des Bénissons, donc c'est un site du département avec lequel on a un partenariat, sur lequel on fait des suivis scientifiques autour des libellules, des amphibiens, des reptiles. Et on fait également des visites. Et là, comme c'est financé, c'est un projet avec le département, c'est gratuit pour les visiteurs. Et là, généralement, on fait à peu près une visite par mois. En septembre, on n'en a pas prévu, mais on en prévoit en octobre. Il va y avoir la fête de la science, donc on va sûrement faire une visite pour la fête de la science. Et puis, on en fera une aussi au mois de novembre, en nocturne, pour observer les salamandres. Donc, pour les dates, n'hésitez pas à regarder sur notre site internet. Dès qu'on a les dates, que ce soit pour Jonzac ou les étangs des Bénissons, on met les dates sur notre site internet. Pour les réservations pour Jonzac, il faut appeler directement l'Office du Tourisme à Jonzac. Et puis, pour les visites aux étangs des Bénissons, vous nous appelez, vous nous envoyez un mail pour la réservation. C'est gratuit, mais il faut réserver puisqu'on limite ça à un nombre de personnes. On fait pas les visites avec trop de monde. Et donc, vous réservez votre visite, c'est ouvert à toute la famille. C'est vraiment des visites de découverte pour le grand public et ça marche très très bien avec les enfants aussi.
À Jonzac, les visites avec l'Office du Tourisme, c'est payant, ça coûte combien?
Oui, alors c'est 5 euros pour les adultes et 3 euros pour les 6-16 ans. Voilà, c'est le budget associatif. Là, du coup, on n'a pas les aides du département, donc ça permet de financer les actions de l'association. Mais voilà, on essaie de limiter les tarifs pour que ça soit accessible pour le plus grand nombre.
Jérôme, merci beaucoup. J'espère que nos auditeurs auront envie d'aller se promener au bord de la rivière, de découvrir la faune, la flore. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle émission.
Merci, merci beaucoup. Et puis, profitez encore du beau temps de l'automne pour découvrir cette magnifique rivière.
Bonne journée à tous sur Radio Pont.
Retrouvez cette chronique sur le 97 FM le lundi et le mardi à 17h50 et le vendredi à 20h et bien sûr en podcast sur le site radiopont97fm.com.